Bonjour et bienvenue sur le podcast de Mood Step où nous parlons de savoir-être au travail. Je suis un peu toute excitée comme une enfant à l'idée de reprendre le podcast, à l'idée de relancer ces petites bouteilles dans l'océan de toutes les informations qui nous submergent. Toujours cette joie d'aller poser des questions à des experts, des consultants, des gens qui travaillent sur des domaines bien précis de toutes les intelligences, que ça aille de l'intelligence émotionnelle jusqu'à l'intelligence collective. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gilles Corcos. Il est le fondateur de l'école systémique de l'intelligence émotionnelle et donc nous allons parler d'émotions. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu que je fais dans les séminaires d'entreprise exclusivement, pour le moment, avec des groupes d'en moyenne 150 personnes pendant 2 heures, dont le but est de découvrir comment on fonctionne. Mais retrouvons tout de suite Gilles pour parler d'émotions. Bonjour Gilles.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Avec toi, nous allons parler des émotions, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, avec plaisir. Alors, moi, au départ, je suis ingénieur en informatique. J'ai commencé ma carrière dans des sociétés de services informatiques. Et puis, au bout d'une dizaine d'années à peu près, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait. C'est pas que je m'ennuyais, mais que voilà, c'était pas ce qui m'enthousiasmait le plus. Et du coup, j'ai trouvé le coaching intéressant. J'ai lu un des premiers ouvrages sur le coaching en 98.
C'était quel ouvrage ? Excuse-moi de t'interrompre.
C'était un ouvrage de Vincent Lénard. En fait, il y avait 2 ouvrages au départ. Il y avait un ouvrage de Vincent Lénard et un ouvrage, je ne sais plus ce que c'était, un autre ouvrage. Il y a très peu d'ouvrages sur le sujet, en fait, à l'époque.
D'accord.
Et ensuite, je me suis dit, tiens, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je me suis inscrit pour faire une formation. Donc, c'était en 98. J'ai fait ma première formation en coaching. Et puis, à la fin de ma formation, je ne me sentais pas prêt pour accompagner des gens. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui me manque ? Et j'ai réfléchi pendant 1 an, 2 ans, et j'ai eu entre les mains un ouvrage de Daniel Goleman qui parlait d'intelligence émotionnelle. Et je me suis dit, tiens, c'est encore une fois, là, c'est ça que je veux, ça m'intéresse, c'est vraiment des compétences qui me paraissent... Peut-être pas d'avenir, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas à ce qui allait être dans l'avenir, mais qui répondait à mon besoin, qui était d'être prêt à utiliser le coaching, d'être prêt à accompagner les gens, de me sentir prêt moi-même. Et je me suis dit, c'est ça que je dois développer. C'est des compétences comme la conscience de soi, l'estime de soi, comment m'affirmer, comment me réaliser. C'est à partir de ces compétences-là que je peux accompagner et aider mes clients.
Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors ?
Alors aujourd'hui et depuis bientôt 15 ans, je travaille en intelligence émotionnelle. Ça veut dire que je me pose tous les jours la question de savoir ce que c'est qu'une émotion et comment je peux vivre avec mes émotions.
Alors qu'est-ce qu'une émotion ?
Alors, une émotion, en fait, c'est une information d'une intelligence qui me vient du corps, bien sûr qui vient du cerveau, mais qui vient du corps, et qui me dit des vérités. Mais qui me dit des vérités, pas dans une logique cognitive, rationnelle, mais dans une logique, je dirais, émotionnelle, voire corporelle. On dit souvent, le corps ne ment pas, et c'est vrai. Et l'émotion est dans le corps. Elle est enregistrée dans le corps, dans nos cellules. Elle est enregistrée dans nos organes, dans nos articulations. Et c'est à partir de mon corps que j'arrive à dialoguer, à vivre avec mon émotion, mes émotions.
Les émotions passent par le corps. Pourtant, les émotions, elles ne sont pas générées aussi par notre interprétation cognitive de ce qui arrive.
Alors, il y a effectivement une interprétation possible, mais ça dépend d'où on va écouter justement. Si on écoute à partir de la tête, il peut y avoir interprétation de l'émotion. Mais si on est centré sur le corps, c'est-à-dire si on pose notre conscience sur le corps, alors on peut entamer un dialogue directement avec nos émotions.
Tu pourrais donner des exemples, c'est-à-dire, par exemple, quelle émotion va se sentir où, comment, quelque chose de, je sais pas, de descriptif?
Par exemple, la colère. La colère, moi je la sens. Alors il y a des analyses qui ont été faites, hein, mais moi je la sens dans mes bras et dans la mâchoire.
Quand tu dis je la sens, ça veut dire qu'on la sent tous à différents endroits ou...
C'est plus ou moins variable, mais on retrouve souvent des empreintes similaires, hein. C'est une étude qui a été faite qui a confirmé ça. En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que les personnes que j'accompagne en coaching ou en training, chacun a une empreinte plus ou moins différente, mais on retrouve globalement pour une émotion une localisation équivalente.
Ok, donc on pourrait voir quelques émotions et voir leur équivalence dans le corps?
Par exemple, alors je peux te parler de mes émotions, hein, puisqu'il
Ouais.
n'y a pas de vérité absolue, mais moi, mes émotions, ma colère, donc comme je te dis, c'est dans mes bras, c'est dans ma mâchoire, la peur, c'est dans mon ventre, c'est dans mes reins aussi, je la sens, dans tout ce qui est ici. La tristesse, c'est plus diffus. Je la sens un petit peu de mémoire, là, je la sens un peu partout dans le corps. Voilà, pour te donner juste les émotions principales.
Et la joie, si on faisait un petit côté positif là pour le plaisir.
Alors après, il y a trois émotions que j'aime bien, c'est le désir, le plaisir et la joie. La joie, c'est vraiment à la frontière entre une émotion et un état d'être. C'est-à-dire, une émotion, en fait, c'est une information qui surgit, hein. L'émotion, elle surgit, elle vient du corps, elle a une durée de vie qui est relativement limitée. Et la joie, selon les écoles, va être considérée comme quelque chose de soudain. Et là, on parle d'émotion, ou alors un état général, un état d'être que les bouddhistes ou des courants peuvent considérer comme une non-émotion, mais plus un état de joie, un état qui nous envahit dans tout le corps.
Maintenant que tu me parles des émotions, là, on a réussi à dénombrer le nombre d'émotions ou c'est juste une vaste palette de nuances?
Alors, effectivement, il y a à la base les émotions principales, hein, il y en a 6, 7, 8, 10 selon les écoles, selon les approches, mais en réalité, définir le nom d'une émotion, c'est avoir une approche cognitive de cette émotion. Et en fait, les états émotionnels, on en a des centaines, des nuances toujours très différentes selon son expérience. C'est comme un peintre, il va voir des couleurs que le commun des mortels ne va pas voir. Et plus on aiguise notre perception des émotions et leur localisation, et plus on va avoir une sensibilité, et plus on va pouvoir nuancer l'émotion. Par exemple, la tristesse, il y a 10, 15 formes de tristesse pour une même personne. Donc en fait, il n'y a pas de limite, en réalité. Il n'y a pas de limite. Ce qui limite, c'est les mots, éventuellement, c'est tout.
À quoi ça sert de vraiment comprendre et connaître ses émotions?
Comme je disais, une émotion, c'est une information que le corps nous envoie, hein, par l'intermédiaire du cerveau, bien sûr. Et il nous donne une information pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas entre l'environnement, hein, et ce qui est enregistré dans notre corps. Ça peut être agréable ou désagréable. Et l'utilité de l'émotion, elle est de nous permettre de retrouver qui nous sommes, de nous permettre de nous retrouver dans un état de détente, de tranquillité, de sérénité. Hein, c'est comme la douleur. Quand j'ai mal au genou, c'est une information que le corps m'envoie pour que je voie ce qui fait que j'ai mal au genou. Ben, l'émotion, c'est pareil. C'est une information que le corps nous envoie.
Mais l'émotion ne peut pas se tromper. Par exemple, je pense à la peur. On a des peurs. Imaginons qu'on est agoraphobe ou qu'on ait peur de prendre l'avion. L'émotion ne peut-elle pas se tromper?
Alors, ça dépend par rapport à quoi. Quand il y a une personne qui est agoraphobe, la peur, elle est réelle.
Oui, et bien justement, oui, mais elle est pas réelle par rapport au danger. Alors, je ne sais pas si c'est objectif, mais... Elle est disproportionnée parfois.
Alors, par rapport au danger extérieur, oui. Mais il faut savoir qu'on vit, on prend des décisions en fonction de notre environnement intérieur, pas en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Si par exemple j'ai peur, ben cette peur elle est réelle, même si on peut considérer de l'extérieur qu'il n'y a pas de danger physique, mais il y a un danger psychologique. Et donc l'émotion, quand elle se manifeste, elle a besoin d'être entendue, d'être écoutée pour être libérée, pour se dissoudre. Et ça, c'est une réalité à part entière. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement.
C'est-à-dire, le référentiel n'est plus l'environnement de la personne et la vision cognitive qui est j'évalue la légitimité de l'émotion, elle est une vision intérieure où l'émotion se manifeste quand, dans le corps, il y a besoin de réajuster ce qui se passe dans mon système de croyance, dans mon système émotionnel, avec mon environnement.
Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut savoir observer ses émotions et les reconnaître. Mais là, est-ce qu'il faut savoir aussi les décrypter? Pourquoi elles sont là? De quoi elles viennent nous avertir?
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a différents niveaux de communication avec l'émotion, mais on peut déjà être attentif à l'émotion, c'est-à-dire observer comment elle se manifeste dans le corps. Ça, c'est un premier niveau. Sans interprétation, sans mettre des mots, on peut déjà se connecter à sa manifestation corporelle. Et déjà être présent à sa manifestation corporelle, ça nous permet de nous soulager. C'est une première étape. Et la deuxième étape, elle est d'être connectée aux images qu'elle va nous envoyer. Et donc, quand par exemple, j'éprouve une émotion, la peur par exemple, ben, je vais me connecter à mon corps et je vais laisser venir les images que cette émotion m'invite à regarder.
C'est forcément des images, on fonctionne tous comme ça.
Ça peut être des sensations corporelles, c'est souvent des images. Si je me branche sur les images, alors ça peut être différentes formes de communication, comme l'intuition, ça peut être des sons, mais c'est majoritairement des images, mais ça peut être aussi des sons, des voix, ça peut être plein de choses. L'émotion va utiliser tous les moyens de communication pour nous donner cette information et nous permettre de nous réajuster avec l'environnement. Et donc, quand je dialogue avec l'émotion, elle va me proposer un certain nombre d'images. Il peut y avoir des images que j'ai vécues il y a 10 ans, il y a 20 ans, depuis ma naissance, et parfois même dans le ventre de ma mère. Et là, dans le ventre de ma mère, il n'y a pas d'images au sens visuel, mais il y a des images sensorielles. Ça veut dire que l'émotion va s'adapter, évidemment, si on est dans le ventre de la mère, elle n'a pas d'image visuelle puisque l'enfant ne voit pas. Mais par contre, il y a des sensations, et c'est ça qu'elle va nous transmettre. Et si moi je reste à l'écoute de cette émotion, à ce moment-là, par ma prise de conscience, je vais la libérer. Donc ça veut dire que je vais libérer l'émotion d'origine et pas ce qui a déclenché mon émotion à l'extérieur, dans mon environnement physique.
Donc si je prends la peur, si j'observe ma peur se dissout?
Si j'observe ma peur avec le corps et pas avec ma tête, sans interpréter, la peur se dissout. Oui.
Et ça marche pour toutes les émotions.
Et ça peut marcher pour toutes les émotions et pour toutes les personnes. Même les personnes qui sont beaucoup dans le mental, elles peuvent aussi utiliser cette manière de communiquer avec l'émotion. Oui.
Donc, il est bon de savoir réguler ses émotions. Quels sont les outils pour réguler ses émotions?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par réguler ses émotions. Moi, je parle de vivre avec mes émotions. Je parle de communiquer avec elle et je parle d'apprendre de mes émotions. Donc, je suis dans une relation de parité avec mon émotion et elle peut m'apprendre des choses sur moi. Donc, réguler l'émotion, pour moi, c'est une manière de contrôler la communication avec l'émotion. Là, je suis vraiment dans le dialogue intérieur avec mon émotion. Maintenant, quand je suis en situation à l'extérieur, effectivement, plus je vais prendre l'habitude de recevoir mon émotion, plus moins l'émotion va m'envahir et va me gêner dans mes relations extérieures. D'accord? Donc c'est en fait paradoxalement l'inverse. Plus j'écoute mon émotion, mieux je peux maîtriser mes émotions vis-à-vis de mon environnement. Et une émotion, si par exemple je suis en réunion de travail, que j'ai une émotion subite de colère, plus j'ai entraîné mon cerveau à écouter l'émotion, plus l'émotion va sentir qu'elle est entendue, qu'elle a besoin que je revienne vers elle plus tard. Et elle ne va pas me gêner dans cette situation à l'extérieur. Et donc, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est plus une question de pratique, de musculature. Alors, quand je parle de musculature, bien sûr, je ne parle pas des muscles physiques, je ne parle pas des muscles des bras, des jambes, je parle du cerveau. Et le cerveau, il se muscle en créant des liens synaptiques. Quand, par exemple, une personne a un traumatisme, il y a une rupture des liens synaptiques dans cette zone-là. Et la réparation de ce traumatisme, ça va physiquement consister à un rétablissement de ces liens synaptiques à cet endroit. Et donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? On a besoin de s'entraîner et d'entraîner notre cerveau à mieux maîtriser les émotions, pas les contrôler avec le mental, mais maîtriser dans le sens à mieux vivre avec elles, à mieux cohabiter avec nos émotions.
Donc on parle de réguler, et c'est moi qui ai parlé et qui ai utilisé ce mot de réguler ses émotions. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'on ne va pas perdre nos dîners à la française où on parle politique ou religion et on est en colère et on est triste? On va devenir des êtres, si on était tous dans la maîtrise de nos émotions ou de la compréhension de nos émotions, est-ce qu'on ne vivrait pas dans un monde... sans justement cette dramaturgie qu'amènent les émotions à la vie.
Ben, je dirais au contraire. Au contraire, curieusement, plus on maîtrise nos émotions et plus on peut les exprimer d'une manière centrée, sans confondre émotion avec jugement. Quand par exemple je ressens de la colère et que j'exprime à la personne en me disant bah, écoute, cette situation me met en colère et pourquoi ça me met en colère et de quoi j'ai besoin pour me recentrer. Ça n'a rien à voir avec la violence. Si par exemple je maîtrise pas mes émotions, je vais passer de ma colère à un jugement de valeur en considérant, en dévalorisant la personne, par exemple. Et c'est là que je ne suis pas dans la maîtrise émotionnelle. Mais l'émotion est toujours là, on a besoin de nos émotions. L'émotion, c'est la vie et on aura toujours des émotions. On va se libérer des émotions qui sont inhibantes, mais toutes les émotions spontanées et naturelles de joie, de peine, sont nécessaires à être vécues. On doit vivre ces émotions et on ne peut pas faire autrement que de les vivre. Personne ne vit sans émotion, ça n'existe pas.
Et donc, quand on regarde cette émotion, voilà, qu'est-ce qu'on en fait?
Déjà, on prend le temps. Si on a la possibilité de se mettre en retrait, on prend du temps pour sentir pleinement l'émotion, hein, pour la sentir, observer les images qu'elle nous propose, pour poser des questions, pour interroger, et d'attendre les réponses qu'elle va nous donner et entamer ce dialogue qui, petit à petit, va lui permettre d'exprimer tout ce qu'elle a besoin d'exprimer autour de cette émotion. Et les événements, entre autres, qui sont reliés à la situation que je vis, que j'ai vécue dans l'instant présent. Et donc, concrètement, ce que je fais, c'est juste de regarder à l'intérieur de moi. Je peux le faire les yeux ouverts, je peux le faire les yeux fermés.
Ce que j'aimerais comprendre, parce que quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'il faut déjà avoir une grande sensibilité, et justement, il y a le mot intelligence, hein, intelligence émotionnelle, une grande intelligence, pour avoir du recul sur soi, observer ses propres émotions. Est-ce qu'on est fabriqué comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus facilement accès à ça ou pas? Comment on accède à cette intelligence émotionnelle?
Alors, il faut savoir une chose, c'est que à l'école, on n'apprend pas à accéder à nos émotions. Je dirais presque le contraire, c'est que dans notre éducation, on nous a appris à bloquer nos émotions, à refouler nos émotions, à les empêcher de s'exprimer, parce que on a peur de nos émotions. Et donc, du coup, on a fait l'inverse. Notre culture nous a généré des personnes qui stocker des émotions plutôt que de les laisser circuler. Hein, moi, je fais souvent un schéma dans mes formations avec une boîte avec des entrées et des sorties. Et dans la journée, on vit des émotions, c'est le flux qui entre. Et ces émotions, soit elles sortent par un flux sortant, soit elles restent à l'intérieur de nous. Et elles s'engramment ou elles s'enregistrent dans le corps, dans les organes ou dans les articulations. Et si elles s'enregistrent, ça veut dire que j'augmente mon stock d'émotions qui n'a pas été libéré. Si je prends par exemple dans les Twin Towers, ce qui s'est passé, c'est que les psychologues ont été surpris de voir qu'il n'y avait pas autant de traumatismes qu'ils pouvaient l'imaginer. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui ont vécu ce traumatisme ont parlé avec leur famille. Elles ont pu exprimer et libérer les émotions qu'elles avaient enregistrées dans leur corps à travers cette catastrophe. Et donc là, ça montre bien que l'émotion en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est de retenir l'émotion, c'est de l'enfermer, c'est de ne pas la voir, c'est de ne pas en prendre conscience, c'est de ne pas l'accueillir. Là, oui, c'est dangereux, à terme.
Si je prends la colère, par exemple, que je n'exprime pas immédiatement, je prends un temps pour l'observer, je vois en effet des images où j'entends des sons qui me disent ah bah, c'est ça qui t'a mis en colère. Est-ce qu'il ne faut pas l'exprimer quelque part, d'une certaine manière elle se dissout vraiment, même la colère, elle a peut-être des raisons d'être là aussi, et elle a peut-être une raison de perdurer.
Bien sûr, elle a toujours raison d'être là. Maintenant, si en écoutant cette émotion, j'arrive à la dissoudre, à la libérer, à ce moment-là, elle va arrêter de se manifester. Mais si, malgré ce que je fais, elle continue de rester, ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas su ou pas pu entendre. Et là, à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir une personne extérieure, quelqu'un qui peut m'aider à aller plus loin dans le dialogue avec mes émotions. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, évidemment, et ça demande un minimum de pratique. Et c'est ce qu'on fait au sein de l'école, d'ailleurs, c'est d'entraîner les personnes à maîtriser leurs émotions. Ça veut dire les entraîner en binôme, en trinôme, en groupe, à accueillir chaque fois que l'émotion est là. Au début, les participants s'excusent presque d'avoir des émotions, de pleurer ou d'être en colère ou d'avoir peur. Et puis petit à petit, ils s'aperçoivent, ben, finalement, il n'y a pas besoin de s'excuser d'avoir des émotions, c'est naturel. C'est la vérité, j'ai envie de dire. C'est la vérité de notre histoire.
Imaginons un scénario que j'ai un patron ou une patronne qui me harcèle ou qui me maltraite au boulot. J'ai l'impression que dans cette partie de dissolution des émotions, il y a une part de lâcher prise, de laisser partir. Est-ce qu'on a toujours intérêt à ce que nos émotions partent, c'est-à-dire la colère, dans ce cas-là, elle est aussi là pour bah, nous rebeller, peut-être pour changer les choses. Donc la dissoudre, est-ce une bonne chose à ce moment-là?
Elle est là pour dire stop. Mais elle est là pour dire stop. Il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. C'est l'environnement extérieur, effectivement, ce patron qui peut m'agacer. Et puis, il y a la dimension intérieure. Et ce patron qui m'agace, qui abuse de son autorité, par exemple, bon, ben ça, c'est un aspect. Mais lui, ça n'est que le déclencheur d'une colère qui est déjà enregistrée en moi. D'accord? Ce n'est pas la cause de ma colère. C'est ça la nuance, justement, qu'il faut bien saisir. C'est que l'environnement n'est jamais la cause de nos émotions. Elle est simplement un déclencheur de nos émotions. Et
Alors, on va
pourquoi
reprendre ça.
expliquer
Elle n'est
ça?
pas la cause, elle est un déclencheur de nos émotions. Si je reprends cette histoire de patron-patronne qui harcèle son employé, ça voudrait dire que, en fait, ça n'est pas la cause, que la cause, elle est antérieure.
Ça déclenche quelque chose qui viendrait d'avant de cette histoire. C'est exactement ça.
Mais ça voudrait dire qu'il y a une personne, par exemple, une autre personne que moi, qui ne serait pas du tout déclenchée par un patron tyrannique. On va prendre une personne qui torture, voilà, son équipe, mais torture physiquement. Les met dans une salle et les torture.
Bon, là, c'est des cas extrêmes qui demandent une compréhension plus profonde des personnes qui sont concernées par cette histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a le déclencheur, mais ça ne veut pas dire que la personne qui déclenche, la personne tyrannique, comme tu dis, qui déclenche ce malaise chez la personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Hein, on est bien d'accord.
Ok.
Hein? Il s'agit pas de, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a juste une explication du mécanisme de l'émotion. On prend deux personnes, par exemple. Il y a un harceleur, on parle beaucoup du harcèlement en ce moment. Il y a une personne qui harcèle, une histoire vraie, hein, c'est une personne qui harcèle une femme qui est dans des états pas possibles, elle fait un procès, il se passe un certain nombre de choses, etc., etc. Cette personne s'en va et il y a quelqu'un d'autre qui la remplace. Cette même personne qui a harcelé la personne qui est partie ne va plus harceler la nouvelle personne qui vient. Pourquoi? Parce que elle sent que ça ne résonne pas à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas sensible à son harcèlement. Elle reste elle-même, elle reste centrée.
C'est dur à entendre. Je pense que si justement je suis harcelée ou c'est très dur à entendre.
Je sais que c'est difficile à entendre et je comprends parce que quand on est harcelé, c'est... Et la difficulté qu'il y a dans ce cas-là, c'est la confusion qu'on fait souvent entre la culpabilité et la responsabilité. Hein? On est tous co-responsables de ce qui nous arrive. Tous co-responsables. Une personne qui est harcelée, elle a vécu des situations qui l'ont harcelée dans son passé. Et cette situation de harcèlement va générer une invitation pour que cette personne prenne conscience de quelque chose qui n'a pas été libéré, une peur qui n'a pas été libérée chez elle.
Alors aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, la compréhension de l'intelligence émotionnelle pourrait amener sur le lieu de travail?
Elle pourrait amener ben, justement des personnes qui, si par exemple je suis au travail en réunion et que ben, je ressens quelque chose, ben, je vais le partager. Je vais dire, écoutez, là, pendant cette réunion, je sens qu'il y a une atmosphère qui, moi, me met mal à l'aise et qui ne me permet pas d'utiliser tout mon potentiel, de vous dire vraiment ce que je pense et de vous donner mon point de vue. C'est une personne qui va oser exprimer ce qu'elle ressent. Et les personnes en face, qui ont aussi ces mêmes qualités émotionnelles, vont être capables, vont pouvoir entendre la première personne à exprimer ce qu'elle ressent. Et du coup, de personne à personne, si chacun se donne l'autorisation d'exprimer ses émotions sans qu'il y ait de jugement, hein, évidemment, hein, bien faire la différence, bah, du coup, la réunion va se passer d'une manière qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace.
Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on va pas se retrouver dans des réunions où on exprime nos émotions, nous sommes en relation avec nous-mêmes et oublier justement le rationnel et rester sur des faits et pas non plus que sur des ressentis?
Alors, effectivement, ça c'est souvent la crainte, mais en fait, quand on a développé une intelligence émotionnelle, on va utiliser autant les faits que les ressentis. Et il y aura peu de débordements. Par contre, s'ils ne sont pas exprimés, il peut y avoir des débordements. Ce que je veux expliquer par là, c'est que contrairement à ce qu'on craint au début, quand on n'a pas pratiqué son intelligence émotionnelle, quand on ne l'a pas développée, on craint d'en avoir trop. Et du coup, que ça déborde. Et en fait, dans la réalité, plus on a pris l'habitude d'exprimer ses émotions assez tôt, et moins on a le risque d'être débordé par l'émotion.
Notre temps imparti vient de fermer ses portes devant notre nez et on se retrouve face au questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu voudrais rajouter avant qu'on commence ce questionnaire?
Oui, effectivement, moi je dirais que au fur et à mesure que les personnes qui sont les stagiaires dans les formations, plus elles s'autorisent à fluidifier, à exprimer, à partager leurs émotions, plus elles sont vraies, plus elles sont elles-mêmes, plus elles sont spontanées, plus la relation est une relation d'être à être, je dirais, et plus d'étiquette à étiquette. On a tendance à coller des étiquettes sur les gens et répondre à ces étiquettes. Et ces étiquettes tombent dès qu'on exprime nos émotions. Et du coup, on n'est plus dans un regard cognitif, mental, mais on est dans un regard et corporel, et mental, et émotionnel. Et du coup, c'est toute la personne qui s'engage dans une discussion, qui partage, qui exprime son point de vue Il y a des personnes qui sont authentiques, qui sont vraies. Et ça, c'est la différence. Et c'est ça qui est important dans l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à ce que chacun puisse se positionner. Et se positionner, c'est parfois exprimer de la colère sans jugement, je reprécise, exprimer de la colère. Et puis tout de suite après, une fois que ça a été posé, ben, l'autre, sachant écouter cette colère, va entendre et l'intégrer et l'utiliser justement sans en avoir peur. Et du coup, ça devient des échanges de personne vraie à personne vraie. Et plus de ce qu'on projette sur les personnes, de toutes les étiquettes qu'on peut projeter, qu'on peut imaginer, qui viennent bien sûr de notre histoire et qui sont collées à des personnes autour de nous. Donc la différence entre les deux, c'est que d'un côté, on va parler à des concepts, à des images, à des étiquettes, à ce qu'on a façonné. Et puis d'un autre côté, on va parler à la personne telle qu'elle est dans l'instant présent. Et nous, on va s'exprimer à partir de ce qu'on est présentement et pas à partir de ce qu'on croit être, de ce qu'on nous a collé comme étiquette aussi. Voilà la différence un peu pour moi.
Ok, vaste sujet. Première question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment de ta vie qui aurait pu être vécu comme un échec et qui t'a particulièrement appris? Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris d'une de tes erreurs de parcours qui n'en sont jamais?
Oui, je travaillais avec un client, une entreprise, et je travaillais par l'intermédiaire d'un cabinet et qui me facturait. Et donc, je ne m'occupais pas de comptabilité, de facturation, de prix, de tout ça. Et donc, ça s'est passé pendant 1 an, 2 ans. Et à un moment, bon, à un moment le client m'a demandé de travailler directement avec eux la troisième année. Et là, moi, j'ai dit OK, donc on s'est mis d'accord en tripartite, et j'ai fait une proposition de facturation à mon client qui était supérieure au prix quand je passais par l'intermédiaire du cabinet. Et du coup, ce client n'était pas content, évidemment, et il y a eu une rupture, et on a arrêté de travailler ensemble. Et je me suis rendu compte que c'était arrivé au moment où j'avais sorti mon premier bouquin. Et en fait, ma peur d'être vu, ma peur d'être critiqué, ma peur d'être jugé par les autres, a fait que je me suis refermé sur moi-même et j'ai saboté. J'ai saboté. Et ma façon de saboter. De me saboter, c'était de mettre un prix qui était supérieur à celui que j'avais proposé au départ. Donc là, oui, c'était une erreur. Après, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris que c'était important pour moi d'être ajusté et de voir quelle était cette part de moi qui avait peur d'être vue, qui avait peur d'être en première ligne. Et ça, ça a été un gros travail derrière, mais ça a été déterminant parce que sans ce travail, j'aurais pas pu continuer l'activité et continuer à développer, continuer à m'engager dans le domaine de l'intelligence émotionnelle.
Ok, et donc qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique ensuite?
Alors après, ce que j'ai fait, c'est déjà de regarder en moi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait un travail de prise de conscience pour voir ben, d'où venait ce sabotage et en fait qui n'était pas un sabotage, qui était simplement une part de moi qui voulait me protéger contre le risque d'être en vue, contre le risque d'être en première ligne. Et quand j'ai pris conscience de ça, cette peur d'être en première ligne s'est réduite, s'est réduite, s'est réduite. Et ce qui m'a permis après de développer des conférences, de prendre des initiatives que je n'aurais pas prises si j'avais pas fait ce travail.
Deuxième question. Y a-t-il une technique ou un outil qui, pareil, t'a particulièrement marqué dans ta carrière?
Alors, moi, j'ai découvert la communication non violente, justement, en 2000, et j'ai trouvé cet outil très puissant et très intéressant.
Tu pourrais juste le décrire en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas?
Oui, bien sûr. Pour moi, hein, la communication non violente, c'est en fait une communication qui respecte l'autre et qui se respecte soi-même. À savoir que je vais communiquer avec l'autre. à partir d'éléments factuels plutôt qu'à partir d'interprétations ou de jugements. Voilà là, ce que c'est que la communication non violente. Et je vais mettre des mots sur les émotions.
Oui, ce qui est un complément parfait dans la compréhension de l'intelligence émotionnelle, puisque on comprend ce qu'il y a derrière nos émotions, en fait, avec aussi la CNV.
Voilà, c'est ça. La CNV me permet de mettre des mots sur les émotions
D'accord.
et donc d'identifier mes besoins, donc de me respecter.
D'accord.
Et l'avantage qu'il y a là, c'est que c'est un processus qui est très simple, avec quatre étapes, observation, senti, besoin, demande. Mais là où je me suis senti limité, c'est quand j'accompagnais mes clients en coaching et je leur ai appris cette méthode. Et le problème est arrivé quand la personne perdait ses moyens et ne pouvait même pas utiliser la CNV avec les personnes dans leur travail. Et là, je me suis rendu compte que c'était un outil puissant, intéressant, mais pas suffisant. Et il fallait vraiment travailler sur la capacité émotionnelle, cette capacité à être présent, même pour les émotions, qui va au-delà de cet outil et qui est vraiment pour moi, qui a été vraiment déterminant quand même, hein.
Okay, c'est comme si tu es dans un tournoi et tu as une épée, tu dois te battre, mais tu trembles tellement que tu peux pas utiliser ton épée, l'épée étant la CNV.
Voilà.
Donc il faut apprendre à calmer son tremblement avant de pouvoir utiliser toutes ces choses-là. Ce qui vient à justement comprendre ses émotions et surtout pas le mot réguler, mais je l'utilise encore, à les comprendre et en tout cas à les observer. Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors pour moi, la qualité importante pour un manager, c'est l'équilibre. Et c'est l'équilibre entre l'empathie et l'affirmation, entre sa dimension masculine et sa dimension féminine. Cette capacité d'empathie qui est plutôt féminine, qui est nécessaire pour un manager, puisque c'est ça qui va faire que le manager va être à l'écoute, va recevoir les messages de ses équipes, des membres de son équipe. Et puis sa capacité aussi à s'affirmer, qui est plus une compétence masculine. Quand je dis masculine, c'est pour les femmes et pour les hommes, bien sûr, hein. C'est trouver son équilibre entre je suis capable d'écouter et je suis capable de donner mon avis. Et pour moi, c'est les managers ont souvent soit des qualités empathiques, ils sont faibles dans l'affirmation, soit ils sont capables de s'affirmer facilement, mais ils ne savent pas écouter.
Ensuite, est-ce qu'il y a un livre que tu nous conseillerais à la lecture?
Alors, à la lecture, il y a évidemment mes ouvrages sur l'intelligence émotionnelle qui permet des ouvrages pratiques, hein, qui permettent de faire un premier travail d'entraînement, une première pratique. Le dernier ouvrage qui est encore accessible, puisque le premier est épuisé, le dernier ouvrage, c'est Comment cultiver son intelligence émotionnelle chez Larousse. Sinon, un ouvrage d'organisation que moi je trouve vraiment génial, hein, qui a été fait par Frédéric Laloux, qui a été un travail de fond et un courage extraordinaire, qui s'appelle Reinventing Organizations. Et il est traduit en français. Et en fait, c'est la même chose que ce qu'on fait en intelligence émotionnelle, sauf que lui, il le fait au niveau de l'entreprise.
Et on va finir avec une citation qui pourrait un peu représenter, je sais pas, ce en quoi tu crois ou ce que tu as envie de défendre.
Oui, alors il y a une citation, là, celle qui m'est venue. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain. J'aime beaucoup cette citation parce que ça nous invite à aller au-delà de notre cognitif, au-delà de nos frontières, au-delà de notre limite. Je pense bien sûr à la physique quantique, je pense à l'intelligence émotionnelle, à tous ces moyens qui nous permettent de sortir de nos carcans.
Où est-ce que on peut te contacter, Gilles? C'est quoi le moyen le plus facile de te joindre?
Alors, je suis joignable sur mon email.
T'as un site internet?
J'ai un site internet qui s'appelle odysseemotion.com.
Que je mettrai en lien dans l'article sur iTunes, sur SoundCloud, sur le blog.
D'accord, super. Ensuite, j'ai un email, c'est contact@audicemotion.com si on veut m'envoyer un message. Et puis,
Et t'es sur les réseaux sociaux.
et sinon, je suis sur Facebook et sur LinkedIn.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire connaissance, parce qu'on ne se connaissait pas, d'avoir accepté de répondre à mes questions, même si des fois elles peuvent être dérangeantes.
Mais c'est bien, au contraire, moi, c'est important parce que les gens se posent ces questions et c'est important d'y répondre.
Et je vais finir, voilà, j'ai un peu envie de savoir vers où tu as envie d'aller. Est-ce que tu as des projets? Comment tu vois ton avenir?
Alors, moi, mon rêve, c'est bien sûr de développer l'intelligence émotionnelle. C'est de permettre aux écoliers, à l'éducation nationale, dans les écoles, de retrouver cette intelligence émotionnelle qu'ils ont déjà spontanément, parce que un enfant, quand il est triste, il pleure. Quand il est en colère, il exprime sa colère. Quand il a peur, il exprime sa peur. Et ça, c'est notre spontanéité. Et notre éducation, petit à petit, nous a empêchés de garder cette spontanéité. Et donc, c'est développer ça dans les écoles, bien sûr. C'est aussi donner accès à tout le monde à travers des formations. Je pense à des organismes comme Acadomia, par exemple, où on propose des tas de choses. Et pourquoi on ne développerait pas des cellules comme ça de formation privée à tout le monde, des parents, des enfants, des professionnels. De développer en 3 jours, 5 jours, 10 jours leur intelligence émotionnelle pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'école.
Maintenant, les enfants, vous n'irez plus au judo, vous irez au cours d'intelligence émotionnelle le mercredi entre 12h et 14h.
Ou alors vous ferez les deux parce qu'on a besoin de développer aussi son corps.
Ah,
Et vous mettrez l'intelligence émotionnelle au judo.
oh, c'est
Serait
bien.
plus dans le combat, essayer d'écraser l'autre, mais dans le jeu avec l'autre. Et ça, c'est génial.
Merci beaucoup, Gilles.
C'est
Et
moi.
puis, je te souhaite d'accomplir
Merci.
tes rêves.
Je te remercie et je te tiens au courant dès qu'on a franchi.
Dès que t'as checké cette case, tu me dis.
D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup pour
Merci.
ton interview.
Bon, je finis le montage de cette interview et puis comme d'habitude, je vous enregistre un petit mot à la fin, dans le noir. Le mardi soir, toujours dans le noir. Je vous laisse un petit mot. Ça se sent là en écoutant cette interview que j'ai passé des mois à bourlinguer et tout ça. J'avais envie de dire pendant l'interview, mais elle comprend pas ce qu'il dit ou quoi? Pourquoi elle répète tout le temps les mêmes questions? Bon, en tout cas, je suis vraiment heureuse de reprendre le podcast. Je vais reprendre un rythme hebdomadaire pour le moment parce que j'ai déjà enregistré une autre interview et j'en ai deux à suivre bientôt. Donc, comme je n'aime pas faire attendre les gens que j'interviewe, ben, ça va être toutes les semaines. On se retrouve donc mercredi prochain pour continuer notre aventure à explorer tous les domaines du savoir-être au travail, nos intelligences au travail. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain.